Europe 1, il est 8h.
On doit, pour préserver notre système de pension, travailler un peu plus longtemps.
La CFDT, elle veut que le gouvernement revienne en arrière. Nous appellerons les salariés le 17 à manifester avec nous.
Laurent Berger, Édouard Philippe, divergence de fond. La CFDT n'accepte pas l'âge pivot à 64 ans et appelle à son tour à manifester mardi prochain.
Pourquoi cet âge pivot est-il à ce point source de conflit ? Votre invité politique à 8h15, Sonia.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Comment cet âge pivot a-t-il été décidé ? Le gouvernement va-t-il, doit-il reculer sur ce point ? Ses réponses après le journal.
SNCF, RATP, les annonces du Premier ministre ont remobilisé les grévistes. La galère dans les transports continue ce matin.
Au départ, on comprend. C'est après, dans la durée, qu'on comprend plus. Les gens s'échauffe, ça les énerve et il faut prendre le mal, son mal en patience.
Dans ce journal, nous irons aussi en Grande-Bretagne, jour d'élection législative et la lassitude d'un Brexit dont tout le monde parle mais qui n'arrive pas.
En Algérie aussi, ces jours d'élection, une présidentielle qui divise les générations. Les jeunes ne croient plus en des jours meilleurs.
Il y a mon propre fils qui refuse de voter. Cette génération, elle a été opprimée de tout. Pas de travail, pas de loisirs. 90% ils ne vont pas voter.
Europe 1, 8h01, excellent réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
64 ans, c'est l'âge qui a mis le feu aux poudres, l'âge auquel les Français pourront partir à la retraite avec un taux plein et sans malus, à condition d'avoir tous les trimestres.
Un âge pivot qui a fait l'objet d'âpres débats au sein même du gouvernement. Finalement, la ligne voulue par Édouard Philippe s'est imposée.
Les Français veulent avoir confiance dans le système. Et pour qu'ils aient confiance, il faut tout dire, les plus et aussi les nouvelles qui sont parfois peu populaire, je le sais, mais dont ma conviction, c'est que les Français les connaissent déjà. Parce que les Français, ils savent très bien qu'avec l'évolution de l'âge moyen, avec l'espérance de vie, avec tout ce qui se passe autour de nous, on doit, pour préserver notre système de pension, travailler un peu plus longtemps.
Hier soir sur TF1, un Premier ministre, comme il l'a dit lui-même, ferme mais pas fermé, sauf que cet âge pivot, c'est une perspective intolérable pour la CFDT, l'un des seuls syndicats favorables à l'instauration du nouveau système.
Réponse du tac au tac de Laurent Berger sur France 2, il appelle désormais à rejoindre la manifestation de mardi prochain.
La CFDT, elle veut que le gouvernement revienne en arrière sur cette mesure paramétrique, cette mesure d'économie, de faire travailler les gens plus longtemps dès 2022, et donc nous appellerons les salariés le 17 à manifester avec nous. Je demande au gouvernement de rouvrir la discussion pour essayer de mettre fin à cette mesure.
La CFDT, syndicat par essence, réformiste, rejoint donc la contestation. Bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour.
Et la centrale est très remontée.
Oui, même s'ils ne défileront pas ensemble, bras dessous avec la CGT, c'est quand même la première fois qu'il y a un tel front syndical depuis 2010. En appelant à manifester, ce qui est très très rare à la CFDT, le premier syndicat de France veut mettre la pression. Et le message est très clair en direction de l'exécutif. Vous avez 5 jours, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine manifestation, pour retirer cette mesure d'âge. Et ce n'est pas négociable. La CFDT, qui a fait le jeu de la négociation et qui a soutenu la réforme depuis le début, joue gros. Là, elle donne presque le sentiment qu'elle s'est fait rouler dans les grandes largeurs. Réussir à faire reculer le gouvernement, c'est donc d'une certaine manière aussi une sorte de question d'honneur, si on peut dire. Mais en face, la détermination est forte, même si on entend ce matin qu'il pourrait y avoir des gestes d'ouverture. Mais le gouvernement veut équilibrer le système. En tout cas, les contacts entre les deux parties vont être intenses dans les jours à venir pour tenter de trouver une issue.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie de la rédaction d'Europe 1. Effectivement, on envoie des signaux ce matin. Notez bien que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, vient de déclarer qu'il y avait une marge de négociation sur la question, cette question sensible de l'âge pivot.
Laquelle justement, quelle marge de manœuvre ? Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, nous répondra dans quelques instants. Et sur le front du refus à cette réforme des retraites, eh bien on trouve aussi les policiers qui disposent aujourd'hui d'un régime de retraite spécifique, ils se disent déçus par les annonces du Premier ministre.
Bonjour Olivier Candille.
Bonjour.
Vous êtes délégué régional Alliance CRS pour la région Occitanie. Édouard Philippe assure que vous pourrez continuer à partir à la retraite à 52 ans. Pourquoi continuer des actions de contestation ?
Ah ben oui, je vous confirme qu'on pourra partir à 52 ans, mais avec combien ? Même pas selon mes calculs, hein, ça n'engage que moi, même pas la moitié de notre salaire, donc avec une diminution d'environ 40% de la pension. Voilà, ça résume à peu près ce que n'a pas calculé notre Premier ministre.
Olivier Candy, dans votre région, sur Toulouse, beaucoup de CRS sont en arrêt maladie. Il y a la fatigue générale, bien sûr, mais pas seulement. Est-ce que vous marquez ainsi aussi votre désapprobation ?
Alors, arrêt de travail pour ceux qui ont été arrêtés, consultants pour ceux qui sont allés voir un médecin et qui a jugé qui n'étaient pas aptes à prendre leur service le jour même, hein, et à le reprendre aujourd'hui. Donc, petite précision quand même. La contestation, pas forcément. On va parler plus de ras-le-bol, hein, de dernière goutte d'eau qui a fini par faire déborder le vase. Depuis 3 ans, un emploi incohérent, un suremploi incohérent, mal géré. Et aujourd'hui, alors le manque de reconnaissance, le manque d'effectifs, je ne vais pas vous faire toute la litanie, mais aujourd'hui, encore un manque de reconnaissance avec une réforme qu'on essaye d'imposer sans en avoir discuté au préalable. Alors, une petite correction, c'est que nous sommes au régime général de la fonction publique, hein, nous n'avons pas le régime spécial. Nous avons un statut spécial dans ce régime qui nous confère 5 ans de bonus que nous finançons, que nous payons tous les mois. C'est-à-dire que un fonctionnaire ou un travailleur cotise entre 10 et 12%. Nous cotisons tous les mois 16%.
Merci pour Merci pour ces réponses et ces précisions, Olivier Candy, délégué régional d'Alliance CRS Occitanie.
Plus d'une semaine de grève et les perturbations restent importantes dans les transports, situation équivalente à ces derniers jours, avec des scènes hier d'une foule impressionnante comprimée dans les couloirs de la station Châtelet à Paris.
Alors qu'en est-il ce matin dans cette même station? Bonjour Victor Dolande, quelle est la situation autour de vous?
Bah écoutez Mathieu, bis repetitas ce matin, des couloirs bondés au croisement des lignes 1 et 4, des gens serrés les uns contre les autres. Depuis un quart d'heure, il faut vraiment laisser passer 5 à 6 rames avant de pouvoir monter dans le métro. Comme il y a beaucoup d'agents de la RATP mobilisés pour filtrer les passagers, ça se passe plutôt bien. Mais il y a toujours de petits malins qui essaient de se faufiler, de se jouer des coudes pour monter plus vite justement dans le métro. Roselyne doit se lever 2 heures plus tôt tous les jours pour arriver à l'heure à son travail. Elle commence à être fatiguée de toute cette situation.
Une, ça va, mais la 4, passer une certaine heure, c'est plus possible, on n'arrive plus à rentrer dedans. À partir de 7h30, ça devient très difficile. Ça me pèse, bien sûr, très fatigant.
Cyril, lui, était plutôt compréhensif au début avec les grévistes, mais les jours passants, il a de plus en plus de mal.
Au départ, on comprend. C'est après, dans la durée, qu'on ne comprend plus. Les gens s'échauffent, ça les énerve. C'est des réactions après physiques. Hein. Il y a plus, le cerveau ne marche plus. Il y a des personnes âgées qui sont un peu écrasées. Les enfants aussi, hein. Alors ça s'échauffe. Mais il faut prendre le mal, hein, son mal en patience.
Pour le moment, justement, les passagers patientent calmement. Mais il n'est pas rare d'entendre dans cette longue file d'attente quelques mots très durs contre les grévistes.
Les jours se suivent et se ressemblent, donc à Châtelet, c'est métro Châtelet à Paris, où vous êtes en direct, Victor Dolande.
Europe 1. Dans un instant, l'international, jour de vote au Royaume-Uni et en Algérie. A tout de suite.
Europe 1, il est 8h09, la suite du journal. Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Bojo or not Bojo, that is the question. Les Britanniques.
What an accent.
Yes. Le vôtre aussi est pas mal. Et les Britanniques surtout, ils sont de retour aux urnes aujourd'hui. Si le Premier ministre Boris Johnson l'emporte, il fera tout pour mener à bien le Brexit fin janvier. Si les travaillistes l'emportent, ce sera un nouveau référendum sur le maintien ou la sortie de l'Union Européenne.
Bonjour Vincent Hervouet.
Good morning.
Good morning Vincent. Les sondages annoncent la victoire des conservateurs.
Oui, mais ils sont trompés pour Theresa May, comme pour David Cameron. Ils se trompent presque à chaque fois. On dirait que les Britanniques sont démocrates au point de voter exprès pour contredire les prévisions. Alors on vérifiera ce soir que le Royaume-Uni a le cul par-dessus tête, le Nord conquis par les conservateurs et le Sud et l'Ouest basculant du côté travailliste. On verra si le vote pour ou contre le Brexit déborde le clivage droite-gauche. En attendant, cette campagne anglaise incite comme toujours à méditer. Le Premier ministre qui fait rigoler l'Europe et grincer Bruxelles est un redoutable animal politique. Bojo joue les nounours, tourne des clips, prend tous les risques, y compris la démagogie. Avec Theresa May, le Brexit s'était enlisé dans un débat de technocrates. Lui a rouvert les négociations, défié les parlementaires. Et s'il l'emporte ce soir, il aura réussi un tour de force. Le pitre est un stratège.
Autre leçon, le Brexit, ce n'est plus Singapour.
Il a mué. Boris Johnson a fait campagne sur la sécurité, l'immigration, la construction d'hôpitaux, la fracture numérique, une politique de relance et des emplois publics. Avec le Brexit, c'est le retour de l'État-providence qu'il promet. S'il l'emporte, on souhaite bien du plaisir à la nouvelle commission qui participe ce matin à son premier Conseil européen et qui va négocier les relations futures avec Londres. Il faut toujours éviter de vendre la peau du nounours avant de l'avoir tué.
Du nounours, le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h. Autre élection, autre enjeu, direction l'Algérie, mais avec des slogans, là aussi en anglais. No vote with gangsters, comprenez, pas de vote avec les escrocs, c'est ce qu'on peut lire sur les pancartes des manifestants.
Les Algériens qui redoutent la mainmise de l'ancien pouvoir sur ces élections présidentielles. Les plus jeunes en particulier sont très pessimistes, en décalage avec les plus anciens, comme a pu le constater Jean-Jacques Herry dans le quartier populaire de Bab El Oued à Alger.
Ma vision à moi, c'est d'aller aux urnes pour éviter tout un chaos et pour éviter les années 90. Un bain de sang.
Pour les plus âgés, c'est la peur de voir ressurgir le spectre de la guerre civile qui va guider la main vers l'urne. Et tant pis si je dois voter pour un voleur, explique Nordine, 72 ans. Sans la blâmer, l'ancien fonctionnaire constate un décalage avec cette jeunesse en colère qui boycotte le vote.
Il y a mon propre fils qui refuse de voter. Cette génération, elle a été opprimée de tout. Pas de travail, pas de loisirs. 90% ne vont pas voter.
Dans sa papeterie, Mamie, la soixantaine, ira lui aussi voter. Le mouvement de contestation, l'Irak a déjà gagné. Il a fragilisé la tutelle de l'armée, dit-il.
Et après le vote, on verra. Avec un petit Irak, et on enlève le président. S'il ne travaille pas, il n'y aura plus de Magoug.
Faux, répond Zinedine, 25 ans. Coincé trois fois par semaine derrière sa machine à pop-corn, cet étudiant en commerce est obligé de travailler sur le front de mer en parallèle de ses études. Il ne voit aucun changement dans cette élection.
Quand on a sorti Al-Hirak, j'y crois qu'il y a un autre gouvernement, des nouvelles personnes. Mais ça n'a rien changé, donc je ne peux pas y aller.
Alors peu importe le résultat, dès demain, Zinedine sera à nouveau dans la rue. À Bab El Oued, à Alger, Jean-Jacques Herry, Europe 1.
Écoutez cette polémique à présent. Des polémiques, il y en a partout, même lorsqu'il s'agit de parler de surf.
Oui, le comité d'organisation des JO de Paris 2024 doit dévoiler aujourd'hui le site retenu pour accueillir les épreuves de surf. Et Tahiti fait figure de favorite aux grandes dames des autres candidats, Cyril de la Morinerie.
Tahiti tiendrait la corde en langage hippique, mais pour l'instant, nous, on continue à se battre.
À la torche en Bretagne, on y croit toujours. Le maire de Pinmar, Rénal Tanter, qui porte la candidature du site breton, espère que sa belle plage de sable blanc, habituée à accueillir des épreuves de surf, sera choisie. À Biarritz, en revanche, on ne se fait guère d'illusions. La ville du Pays Basque, qui vient d'accueillir le G7, a pourtant beaucoup d'atouts face à la candidature polynésienne. Rien à construire, des hôtels sur la plage et la proximité avec Paris. Si bien que Lionel Ortiz, maire adjoint en charge du surf, ne comprendrait pas que Tahiti soit choisi.
C'est une vague mondialement connue, mais qui est aussi ultra dangereuse. Pour le moment, il n'y a jamais eu une compétition féminine sur ce site. Ils ont également la contrainte du vent, qui souffle beaucoup à cette période-là. C'est un vent de côté et qui peut être très néfaste pour la vague. Mais c'est quand même à 15 000 km de Paris, avec aucune infrastructure autour du site de Tiopo. Ça va être un dossier coûteux, impactant pour l'environnement également.
Fin du suspense après le conseil d'administration. Tony Estanguet prendra alors son téléphone. Il appellera les villes candidates pour leur annoncer le site choisi.
Cyril de la Morinerie.
Ça fait du bien aussi, attendez, on écoute
c'est
un peu.
C'est notre Beach Boy, à nous, Cyril de
la Morinerie. Il aussi fait partie du service des sports d'Europe 1.
Like 8h15, vous êtes sur Europe 1. Un excellent réveil à toutes et à tous. Votre invité politique, Sonia.
Allez, toute autre ambiance à présent, l'ambiance sociale qui se durcit. On va en parler avec Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics. Bonjour, monsieur Darmanin.
Bonjour.
On va vous demander de réagir sur une petite déclaration d'un de vos collègues du gouvernement, Bruno Le Maire, il y a quelques minutes.
L'âge d'équilibre, les modalités pour parvenir à l'équilibre financier, c'est négociable.
A tout de suite sur Europe 1, 8h15.